le SNCL. Le Salon des maires et des collectivités locales du 16 au 18 novembre 2021 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Action Logement sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bon, les amis, il va falloir un peu réduire le son là, parce que sinon on va massacrer nos invités. On va les rendre sourds et quasiment aveugles. Hein. Donc, c'était un peu. C'était, bon, voilà, c'est les aléas du direct. Merci d'être avec nous toujours. Le 16 novembre, Salon des maires et des collectivités locales, 16 novembre 2021, bien sûr, au Parc des Expositions, Porte de Versailles, accompagné de notre rédacteur-chef. Fabienne Lissac.
Bonjour à tous, bienvenue.
Ça va Fabienne?
Et très bien, et puis c'était une table ronde extrêmement qui a intéressé tout le monde, beaucoup de monde, et donc on a dit, on veut savoir qu'est-ce que vous avez raconté de si intéressant sur les infrastructures, la Smart City, un sujet que Sylvain Lévy-Valenzi connaît parfaitement bien.
Alors justement, pour en parler, Alain Guillaume, chef d'entreprise de Citeos, bonjour, comment ça va?
Très bien, merci.
Voilà, une très belle table ronde. Et Khadija Tiganinim, ah, je vais y arriver, chef de projet Citeo, salut, comment ça va?
Ça va très bien, merci, vous?
Alors, ça va plutôt bien. Et est-ce que la Smart City se porte bien, si on peut dire les choses comme ça?
Alors la Smart City, nous on a voulu la secouer un petit peu, la re-questionner. C'est un mot un peu valise qui est souvent très fustigé, galvaudé aussi. Parce que ça a accompagné des grands chantiers qui ont finalement été un petit peu très marketés et pour les territoires parfois ça a été un peu trop gros, je pense. Chez Citeos, donc on s'est posé la question de savoir où est-ce qu'on voulait aller, sachant qu'on avait déjà une feuille de route bien rodée. On a la spécificité en fait d'être un acteur ayant un ancrage local très fort, donc on est plus de 70 entreprises au sein de, enfin nationales à l'échelle de la France, donc on connaît bien nos territoires, on a un bon ancrage local, et donc la question des petites et moyennes villes, c'est déjà en fait un sujet que nous on avait pris à bras le corps, et aujourd'hui voilà, il y a un changement de paradigme sur ce sujet là, de la Smart City, que nous on porte assez fièrement, et on change pas la terminologie, parce que souvent là on parle de ville intelligente, territoire intelligent, pour essayer de changer un peu la donne. Nous, on capitalise sur ce qu'on a fait et puis on tire des enseignements.
Justement, Alain, c'est quoi la Smart City? Si on devait aujourd'hui donner un vocable, une espèce de punchline qui dit voilà, c'est quoi une Smart City aujourd'hui? Je vais vous donner un exemple. On a fait le lancement de On Dijon, vous savez, l'open data qui avait été développé donc à François Rebsamen. C'est d'ailleurs Bouygues Télécom qui avait remporté le projet à l'époque. Je me rappelle, au MIPIM, on avait fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait un grand show. François était venu sur le plateau, on avait parlé de ce sujet, et on disait, voilà, l'open data, c'est la possibilité de tout piloter avec des PC dans une ville qui se veut intelligente. Puis après, on est passé sur un autre sujet. On est passé sur l'espace client-centrique, c'est-à-dire maîtriser les usages, parcours ou déambulation dans la ville, donc soit parcours bucolique, parcours professionnel, mobilité. Ça recoupe quoi aujourd'hui, si on devait qualifier la Smart City aujourd'hui?
Et je crois, Sylvain, qu'il faut d'abord écouter les élus. Qu'est-ce qu'ils nous demandent? Où est-ce qu'ils nous attendent? Donc il n'y a pas une thématique Smart City qui sort du lot. On a beaucoup associé la Smart City aux technologies.
Donc finalement, il y aurait des Smart City,
il y a évidemment des Smart City, et on sort vraiment de cette logique technocentrée vers une logique client-centrique et une logique d'usage. C'est pour ça que les concepts développés notamment par Khadija chez nous, c'est ce développement de la maîtrise d'usage. Donc aujourd'hui, un maire, il ne nous dit pas tellement « je veux une Smart City », enfin, il ne nous dit plus « je veux une Smart City », ça ne suffit pas, se mauvaise. Il nous dit « moi, j'ai une problématique ».
C'est ça.
J'ai une problématique, par exemple, parce que je veux un éclairage public qui soit plus vertueux en matière environnementale. Voilà. Comment on fait? C'est des questions précises et concrètes comme ça que, quelque part, on adresse lorsqu'on soulève ce concept valise de Smart City.
Alors, oui.
Oui, non, voilà, les infrastructures urbaines, quand on passe dans une collectivité, je vais vous dire, on voit si c'est allumé ou pas. Et vous nous dites, mais la gestion des lampadaires, chez Citeos en plus, c'est complètement autre chose. Où est-ce qu'il y a de l'innovation et où est-ce que la gestion, finalement, a quelque chose de stratégique? On ne s'en rend pas nécessairement compte dans une ville.
Alors, l'innovation, c'est une innovation qui n'est pas techno sur cette thématique-là, enfin, qui est le moins possible techno. On a de la LED, évidemment, on a des systèmes de télévision, mais à la rigueur, comme tous nos confrères. Là où on va plus loin, c'est qu'on va parler d'ingénierie et de méthodologie. On se rend compte aujourd'hui que on met en place un éclairage public, on ne se pose pas la question de l'empreinte carbone. Donc, qu'est-ce qui est nécessaire et quel est l'impact carbone de la production d'une LED, de la production d'un mât, d'un massif en béton, tout ça, on le regarde a posteriori. On ne se dit pas, si on souhaitait optimiser aussi cette variable, comme on traite Le budget, c'est très important le budget. Le taux de rénovation du patrimoine, c'est très important le taux de rénovation du patrimoine. Les délais de service et l'efficacité énergétique, évidemment. Mais la partie amont, l'empreinte environnementale, l'empreinte carbone nécessaire à la production des équipements, elle n'est pas adressée. Quand on commence à lever cette variable-là et qu'on commence à chercher à l'optimiser, on change nos métiers. On change nos métiers de travaux et on change nos métiers de mainteneurs de l'éclairage public.
Alors, non, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est le sens de l'histoire. Hein. On voit bien aujourd'hui que le processus de décarbonation globale, hein, j'entends, hein, il y a des espaces dans lesquels il n'est pas toujours évident de trouver les ajustements nécessaires. Parce que dans ce que vous dites, il y a deux choses. Il y a la maîtrise de l'usage, c'est-à-dire qu'en fait, de quoi a-t-on réellement besoin. Puis après, il y a la question de l'impact environnemental. Il y a la question, justement, c'est trouver l'équilibre entre les deux qui n'est pas évident. Parce qu'on peut... Je veux prendre un exemple. Les télécoms, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est autant que l'aviation. On est en 2021. Ça va passer à 8% en 2030. Donc, on voit... Or, on a besoin des télécoms, on a besoin des zones aujourd'hui connectées. Comment on fait quand on est à votre position pour trouver les ajustements nécessaires avec les établissements publics et les communautés de communes qui vous challenge sacrement quand même, c'est pas évident.
Bah nous, ce qu'on a introduit typiquement, c'est l'ingénierie sociale. Pour nous, c'est déterminant parce que finalement, au-delà des acteurs, en fait, des clients, comme vous dites, des collectivités ou des partenaires avec lesquels on peut faire du négoce, il y a les bénéficiaires, c'est-à-dire les utilisateurs. Et souvent, en fait, ils arrivent en bout de chaîne alors qu'ils sont déterminants. C'est un peu nos ambassadeurs, finalement, si on doit promouvoir un éclairage public bas carbone, s'il faut qu'on aille plus profondément dans des sujets en lien avec l'environnement, etc. Il faut qu'on ait une lecture socio-technique. Donc nous, ce qu'on fait chez Citeo, c'est qu'on fait dialoguer plusieurs sciences. Les sciences de l'ingénieur, on est connu pour ça, mais aussi les sciences sociales, parce que c'est important travailler sur les comportements pour mieux saisir finalement les attentes et les besoins et de faire du sur-mesure.
Concertation.
Même de la participation, parce que la concertation, au final, c'est une fois que le projet a été décidé, d'accord. On dit bon, vous êtes d'accord ou pas. Donc au final, c'est pas une vraie implication.
Vous les impliquer dès le départ.
C'est vraiment qui l'intelligence collective des utilisateurs. Typiquement, en mobilité électrique, par exemple, quand on définit des offres, on prend un panel d'utilisateurs, on collabore pour cela avec des organismes type Ipsos, des instituts de sondage qui vont nous trouver des aussi la société civile, c'est super important parce que finalement c'est eux qui vont être les vecteurs de cette transformation en fait du territoire. La mobilité électrique, c'est un challenge. D'ici 2030, on tend à avoir une mobilité bas carbone. Le plan de relance fait la promotion du déploiement de plus de 100 000 bornes de recharge. C'est très bien de déployer des infrastructures et nous, c'est notre corps de business, mais qui va les utiliser? Et in fine, là, sur la mobilité électrique, plus que jamais, vraiment, il y a un rapport direct avec l'infrastructure. L'éclairage public aussi, mais c'est un peu indirect. Les gens ne se rendent pas compte en fait, du bienfait ou de l'intérêt en fait, d'une infra qui... performe, certes, mais qui apporte aussi sa bulle de sérénité, un éclairage sensible, une forme d'appartenance au territoire. La mobilité électrique, c'est différent. Là, il y a une charge qui est faite, donc l'utilisateur a un contact direct avec l'infra. Il y a un échange aussi financier et il faut réussir à définir des scripts ou des scénarios d'utilisation avec les utilisateurs. On appelle ça des scénarios socio-techniques et ça, c'est la sociologie qui nous le permet au travers également aussi de la mobilisation des sciences environnementales. On n'est plus dans une approche où on se dit on met du vert pour mettre du vert.
Mais bien sûr.
Et on a envie vraiment d'avoir cette approche scientifique parce qu'aujourd'hui, il faut savoir aussi qu'à l'échelle sociétale, et je vous laisse prendre la parole, on a des réticences et vraiment de la défiance et l'innovation c'est plus, ou le progrès c'est plus vu comme quelque chose de positif par les gens mais quelque chose de très très négatif, donc alors, il faut savoir embarquer
je vais même aller plus loin, c'est carrément anxiogène.
Totalement.
C'est carrément anxiogène parce que nous on fait beaucoup de villes, on bouge beaucoup et on a observé effectivement un changement, mais je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure Alain, qui est très juste, c'est la maîtrise d'usage. De toute façon tout part de là. Parce que de la maîtrise d'usage finalement on arrive à adapter de façon très spécifique les besoins. Mais je voudrais revenir sur justement les bornes de recharge. Vous savez, les installations. Bon, il y a un marché colossal, on est d'accord là-dessus ?
Totalement. Et c'est un marché qui se structure. Il y a un jeu d'acteurs qui est assez important.
La transformation, la rénovation énergétique, les installations, le passage à une mobilité plus douce, effectivement, je suis d'accord. Même si moi, qui suis passionné de vitesse, c'est juste un peu. Voilà. Mais moi, je suis cuit.
Il y a des Tesla et des Porsche Taycan qui font l'affaire.
À mon âge, je suis cuit.
Il y a des choses qui sont. Non, mais après, c'est une solution parmi d'autres.
Et la copropriété, c'est un enjeu important.
Totalement, pour installer finalement
des. Est-ce que vous êtes, vous, en lien avec les copropriétés
urbaines? Oui, on travaille sur ces sujets.
C'est hyper important parce qu'il n'y a pas une clé, là, non, justement, à la fois sur le plan sociologique.
c'est ça.
Voire même une transformation anthropologique. Je m'explique, anthropologie urbaine, changement des besoins, maîtrise des usages, à travers finalement une copropriété qu'on gère un peu comme une micro-cité. Quoi.
Exactement. C'est un jeu d'acteurs qui est complexe. Et là, c'est pas les architectures système qui nous posent problème. C'est vraiment la conduite du changement.
Je suis d'accord.
C'est comment, en fait, on intègre... Non, pas du tout. La technique, nous, on est vraiment des installations robustes, on sait très bien faire. L'enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu sociétal.
Bien sûr.
Qui complète aussi les enjeux techniques, parce que
c'est l'acceptabilité, la pédagogie.
C'est ça, il faut aussi faire du bas carbone. Et ça, techniquement, ça demande aussi de la précision. Mais pour la copropriété, par exemple, effectivement, là, ce qu'il faut faire, c'est embarquer les gens, leur expliquer aussi ce changement,
Khadija,
et puis aussi leur introduire la sobriété
vous
énergétique.
Vous êtes ingénieur ?
Non, moi je suis sociologue.
Vous êtes sociologue ?
C'est pour ça que je suis là.
Non, parce que moi je vous écoute, quand je vous écoute, je vois une anthropologue.
Totalement, c'est
une
ma formation.
Sociologue, ouais. Mais aussi ingénieur.
C'est parce qu'en fait on s'adapte bien, nous, les sciences humaines. Les sciences souples, elles ont introduit les sciences dures. Donc on est.
elle est passionnante.
Mais tout à fait.
C'est passionnant. Et je le dis avec beaucoup d'objectivité.
Merci beaucoup, je suis touché.
C'est intéressant parce que je comprends tout. Et Dieu sait que c'est pas évident que je comprenne des fois.
C'est savoir vulgariser. Ça me fait plaisir de vous entendre dire ça.
Mais vous le savez, le problème, parce que vous l'avez dit, je suis content que vous l'ayez dit, parce que on le remarque. On voit qu'il n'y a plus de débat autour de la technologie. En fait. On est allé à Dijon, on est allé dans les grandes villes, les petites, les villages. On a remarqué que le problème, c'est pas la technologie. Vous avez raison. Le problème, c'est le niveau d'acceptabilité, de compréhension, de lisibilité, de pédagogie. Et c'est ça qui génère le stress. Et en fait, on s'est rendu compte, sur des projets d'aménagement urbain complexes, parce que c'est très complexe, l'aménagement urbain, on s'est rendu compte que les concertations très en amont, je ne parle pas de co-construction, attention, on parle de concertation, de travail avec la société civile, réduit de moitié, tenez-vous bien, ne serait-ce que les recours, vous savez, les recours qui sont le fléau des promoteurs urbains. Est-ce que, dans votre métier, chez Citeos, ces fonctions, j'allais dire polytechnicienne au sens étymologique du mot, parce que finalement, vous êtes une polytechnicienne, hein, une polydiscipline.
Oui, c'est pluridisciplinaire. Mais effectivement, c'est amené...
Vous faites de la philosophie urbaine, vous faites de l'anthropologie.
De la sociologie, de l'énergie, des techniques.
Vous faites de l'énergie, c'est-à-dire que vous avez une connaissance technique quand même assez affûtée. Est-ce qu'il n'y a pas là, quelque part, une nouvelle configuration, Alain Guillaume ?
On travaille énormément à la...
Qui accompagne les collectivités.
Oui, on travaille énormément à donner corps aux ambitions politiques de nos élus. Il y a cette vague verte des dernières élections, à n'en pas douter, qui est présente. Mais comment traduire dans les faits, dans les politiques publiques, dans les politiques de gestion des infrastructures, une envie avec une modification des comportements? Et c'est très complexe. Nous, on arrive avec des solutions, mais on est un maillon de la chaîne. Donc on est force de proposition. Et on invite surtout, dans un premier temps, les villes à re-questionner leur mode de passation des marchés publics. Si on ne fait pas évoluer les cahiers des charges qui va permettre de différencier une entreprise qui est plus vertueuse du point de vue de l'environnement qu'une autre, ça ne fonctionnera pas. Et pour ça, on a des outils, heureusement. Il y a un stand de la fresque du climat ici sur le salon des maires. La fresque du climat, c'est un outil merveilleux. En 2 heures, on arrive à mettre autour de la table les services techniques, les élus, et on arrive à réfléchir aux enjeux fondamentaux qui sont derrière le réchauffement climatique. Et de là, on arrive à donner du sens à l'action publique modifiée, on arrive à donner du sens quelque part à un changement du comportement. Et oui, une voiture électrique, quand on veut faire 1000 km, il faut s'arrêter pour la recharger un peu plus souvent qu'une voiture thermique dans l'état des technologies actuelles. Donc il faut faire changer les comportements.
L'état des technologies actuelles, vous l'avez dit.
Oui.
Parce qu'il n'y a pas si longtemps, on faisait 50 bornes ou 100 bornes.
Oui.
Aujourd'hui, on en fait 400 à 500.
Totalement.
On en fera 1000, 1500. Mmh. Vous avez raison sur ce que vous dites. Fabienne.
Oui, je voulais vous poser la question, Alain Guillaume, parce que toutes les collectivités, l'État, ne cessent de dire qu'il faut décentraliser, il faut du pouvoir dans les régions. Ils n'y arrivent pas toujours. Et vous, quand vous nous parlez de cette organisation au sein de Citeos, ça a l'air de marcher. Donc, comment ça se passe, cette activité en autonomie? Je crois que vous êtes à Noisy-le-Sec, Alain Guillaume, et par rapport
ça,
à ce grand groupe derrière, à la fois Citeos et Vinci encore.
Mais le modèle de Vinci Énergie et donc le modèle des entreprises Citeos est extrêmement performant. Pourquoi ? Parce qu'on a la chance d'avoir dans les services, on va dire, transverses, donc notamment Khadija, des personnes d'exception qui sont très en pointe sur des sujets nouveaux. Voilà. dans les petites entreprises, quelque part, qui ont la taille d'une PME, des cités, dont celle dont j'occupe la direction à Noisy-le-Sec, on est 30 personnes. Donc 30 personnes, on ne peut pas avoir un sociologue avec nous. Donc on a le meilleur, du central avec cette organisation. Et ensuite, on est proche de nos clients. Parce que personne d'autre mieux que mes responsables d'affaires qui sont au quotidien à gérer les services publics d'une ville sont à même de proposer les solutions qui vont bien, inspirées par l'aspect central et les idées promues par Radija et son équipe.
Est-ce que vous avez publié, Radija ? Vous avez publié un livre déjà ?
Pas encore, mais en fait, justement...
Je vous encourage à le faire. Hein.
C'est gentil, moi, je suis...
Non, mais c'est important pour les gens.
Oui, bien sûr. Non, mais en fait, nous, on commence justement à le faire... on a mené une grande enquête pour justement en sortir des conclusions assez intéressantes sur comment renouveler sa vision sur la Smart City.
Sur quel échantillon ?
En fait, on a interrogé plus de 50 personnes. On a interrogé, en fait, des internes donc au groupe Vinci Énergie national et international. On a également interrogé des externes, donc des fournisseurs de solutions, des collectivités, des chercheurs surtout, pour vraiment amener, comme je vous disais, la vision scientifique. C'est important aussi, parce qu'on est quand même dans une ère de désenchantement où maintenant, en plus, les sciences souffrent un petit peu au regard de la montée des thèses complotistes, etc. Et on a besoin, en fait, de se réenchanter avec la science. Et on le fait donc au travers de cette étude qui nous a permis de dégager les grands piliers de la Smart City aujourd'hui. C'est juste ce qu'il faut de technologie, donc le in-house tech et pas le low tech. Donc juste ce qu'il faut. Donc il en faut, mais de manière raisonnée et réfléchie, avec justement des citoyens qui vont nous aider à définir ce dont ils ont besoin. Il y a également l'empowerment de citoyens, donc la capacitation des gens à pouvoir agir sur des décisions en fait qui les concernent, à savoir à l'échelle des territoires. Donc ça amène la question de la politisation finalement de ces sujets de transformation numérique. Au sens étymologique, c'est-à-dire
du mot politique, j'explique.
Oui, non, parce oui.
C'est intéressant dans ce que vous dites, mais vous savez, si mon vieux professeur de philo, j'ai eu la chance moi d'avoir un professeur qui s'appelait Emmanuel Lévinas, avec qui j'ai étudié pendant très longtemps, et j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Il vous dirait la chose suivante, quand je vous écoute, que vous avez presque une vision en épistémologique finalement de la société. Je m'explique, parce que vous dites, c'est marrant, je l'ai rarement entendu. Vous dites qu'il faut réenchanter la science. C'est pas extraordinaire ça d'entendre un sociologue qui vous dit qu'il faut réenchanter la science.
Il réenchante le plateau en tout cas.
Mais réenchanter la science, réenchanter la science, ça veut dire rapprocher les personnes finalement d'une compréhension complexe.
C'est ça, et puis leur faire comprendre que effectivement il y a des technologies qui peuvent être useless, mais d'autres qui peuvent les servir à finalement mieux vivre. Mais on ne peut pas embarquer les gens et leur parler de sobriété énergétique si on leur explique pas ce que
Exactement.
C'est.
Exactement.
Et c'est là qu'on parle de fracture numérique, de fracture aussi écologique, parce que les gens, on n'a pas tous cette appétence.
Est-ce qu'on observe les changements de comportement ? Je veux dire, voilà, chez Citeos, vous avez cette particularité. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est bien l'ADN de Vinci, d'ailleurs. Mais est-ce qu'on observe des changements de comportement suite à ce processus, finalement, pédagogique, je peux le dire comme ça ?
Complètement, c'est de l'accompagnement au changement.
De l'acceptabilité. Je reviens toujours sur le mot acceptabilité, parce qu'on a le même sujet sur l'aménagement et les problématiques de nuisance sonore, sur des aménagements urbains intramuros. Parce que c'est schizophrénant, dirait une ville.
Typiquement, pour reprendre le sujet de la mobilité électrique, on a gagné un marché en Bourgogne-Franche-Comté, un MPGP. C'était une première, un marché global de performance, qui était un véhicule juridique, j'allais dire, qui était plus dédié à l'éclairage public. Mais là, on avait besoin d'être sûr que l'utilisation des bornes soit efficiente, parce qu'il y avait un taux de panne de ce réseau qui était flagrant. Et ce qui était déterminant, c'était l'acceptabilité pratique de ces bornes.
Ben oui.
Et nous, on a amené justement cette vision d'ingénierie sociale, où on a dit, effectivement, la robustesse technique, on vous l'apporte et on est connu, on a cette notoriété, mais on vous apporte aussi le regard sociétal, parce que c'est déterminant dans la diffusion justement de la culture de l'électromobilité. Et c'est comme ça qu'on opère aujourd'hui sur des offres, et même en éclairage public. Moi, je laisserai aussi... peut-être Alain s'exprimer sur la nouvelle ère en fait de l'éclairage public dans laquelle on entre, qui va mobiliser les sciences environnementales, on va développer en fait des outils de calcul intelligent, et puis qui fait aussi de l'inclusion citoyenne pour changer en fait
Alain,
la donne.
Alain, est-ce qu'on sera régi depuis notre réveil le matin par des algorithmes et des logarithmes ? Ça, franchement, ça fout un peu les jetons quand même quand on y voit de l'extérieur, parce que tu sais, quand tu te dis que tout sera géré par des algorithmes,
qu'est-ce qu'il nous reste comme marge de
manœuvre,
comme liberté ?
Qui approche quand même sereinement la soixantaine, j'ai connu une époque, moi, mon premier smartphone, j'avais 30 ans quand même, hein. Faut pas déconner non plus. Hein. Non mais c'est comment on fait pour rendre ça perceptible ? Alors peut-être que c'est ma vision un peu vieillotte, hein. je veux bien l'accepter.
Là, déjà, c'est pas le futur, c'est-à-dire que c'est pas forcément souhaitable, mais ça dépend. Il y a un certain nombre d'États qui n'ont pas les mêmes visions que d'autres et qui ont déjà aujourd'hui un système de suivi de la population, etc. Enfin, je pense à la Chine notamment.
Ah oui.
Elle ne fonctionne pas du tout comme nous.
Mais c'est pour ça qu'on revient. C'est pas une démocratie, la Chine.
C'est pour ça qu'on revient sur quel est l'objectif. Et c'est pour ça qu'on revient sur l'objectif, la maîtrise d'usage. Dans les villes françaises, on n'a pas envie justement de ce tout techno. Donc on a envie de la techno qui est nécessaire pour le bon usage par rapport aux objectifs d'une ville. L'objectif de certaines villes aujourd'hui...
Et la quête d'un bonheur, la quête d'un bonheur urbain, d'une ville apaisée, d'une ville harmonieuse, c'est pas neutre.
Et exactement, et notamment ce qu'on voit derrière la montée de la vague verte, oui, il y a cette angoisse, cette éco-anxiété du réchauffement climatique, mais il y a aussi une volonté de vivre de manière plus apaisée, de moins souffrir de la congestion urbaine, de pouvoir se promener dans un environnement d'éclairage la nuit qui, quelque part, donne le sentiment d'une ville apaisée, une ville qui fait de la cohésion.
Ouais, je suis d'accord. C'est fou comme le... Je sais pas, est-ce qu'il y a des études qui font la relation entre l'impact de la lumière...
Totalement. Vous avez des spécialistes
de
la sociologie de l'énergie, ou même des gens en fait, qui travaillent, des concepteurs lumière, des urbanistes qui travaillent sur la question sensible de la lumière, la bulle de lumière. En fait, par exemple, je vais prendre un cas pratique, la pandémie, il y a eu cette question de est-ce qu'on éteint les lumières le soir parce que ça ne sert à rien de les laisser allumer, il y a le confinement, etc. Sauf qu'on a oublié en fait, un pan important de notre société, à savoir les soignants, qui eux rentraient très tard le soir et qui ont besoin en fait de cette petite bulle de sérénité quand ils rentrent chez eux, parce qu'ils sont quand même, ils étaient au front, ils étaient confrontés à une réalité atroce. Et voilà, la lumière a aussi cette ambition-là. On a par exemple la mise en valeur lumière que Alain peut parler mieux que moi. C'est comment en fait rendre les villes attractives, pas pour mettre de la LED, enfin des lumières pour décorer, mais pour finalement se sentir appartenir à un territoire et un sentiment d'appartenance. Et techniquement, on peut le faire proprement. On peut le faire bien.
On devrait faire un peu de poésie dans tout ça.
Mais c'est important, les villes.
La lumière s'est manifestée aux mairies et les mairies ne l'ont pas ignorée, comme c'est au ou au territoire.
Alors, c'est passionnant, mais Sylvain, une smart city, ça donne une smart interview, des smart invités. Et on en a d'autres qui se bousculent au portillon. Donc, Sylvain, peut-être un mot de conclusion, qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, justement. D'abord, on va donner le... Vous avez un stand ?
Oui, on a un stand.
On va donner l'adresse du stand. On peut venir vous voir.
Bien sûr, on est au pavillon 3, stand N104.
Alors, N104, pavillon
3.
Mais elle est exceptionnelle.
Ah oui, mais...
Vous n'avez pas une sœur aînée ?
Moi, j'aime les gens. Non. Une sœur aînée ? Non, j'ai des sœurs, oui. j'ai plein de sœurs, oui.
Non, mais c'est une blague. Bon, c'est des blagues.
Je voulais juste dire que c'est important, en fait, de rencontrer les gens. On est vraiment ravis de pouvoir être présents dans le salon, parce qu'on a été coupés par
le... En tout cas, ce qui est rassurant, c'est de voir des personnes qui respirent l'élégance et l'intelligence.
Merci.
Ça, c'est rassurant. Alors, c'est rassurant pour plus de raisons, mais je voudrais juste que vous puissiez vous-même, Alain, et déjà faire une conclusion. La Smart City, c'est pas un vœu pieux, c'est quelque chose qui doit réunir des fonctions bien particulières, des fonctions éducatives, des fonctions culturelles, des fonctions aussi de mixité. Et j'ai bien dit le mot, hein, mixité, parce qu'en ce moment, règne un vent qui n'est pas très bon, et sur lequel on est tous à notre niveau exposés. J'ai connu cela quand je suis arrivé dans ce pays. Arrivant du Maghreb, ça a été très difficile comme intégration. Et on voit bien l'impact, en fait, de ce que peut provoquer, finalement, les fractures territoriales. Moi, j'ai grandi dans une cité qui s'appelle les Minguettes, à Lyon, qui était la pire cité de France. D'ailleurs, elle a été rasée. Elle a été rasée depuis. Donc, on peut penser rêver mieux. Et c'est là qu'on voit, finalement, que vos fonctions ont aussi cette fonction-là. Et j'aimerais bien un jour entendre, et donc je lance peut-être cette idée, que dans vos fonctions, alors c'est pour ça que je vous ai écouté le faire avec beaucoup d'attention, où on intègre ces notions aussi à travers cette technicité ou cette technologie qui, finalement, rend service aux gens et qui crée plus de liens sociaux, parce que je pense que ça va être un sujet important. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus et vous fassiez aussi la conclusion, Alain Guillaume.
Non, mais je suis très en phase avec le constat que vous portez, à savoir que si on veut des villes apaisées, il faut mettre des politiques en face. L'apaisement et le vivre ensemble, ça ne se décrète pas, ça se construit. Alors comment on le construit ? La Smart City, C'est un outil parmi d'autres, mais qui doit être au service de la volonté municipale et des territoires. Et on doit accompagner et se servir de ce qu'offrent les nouvelles technologies qui vont dans le bon sens. Donc c'est pas on a un problème, on va trouver la bonne technologie, c'est on a un problème, on construit une solution, et la Smart City peut être un moyen pour accélérer ou faire mieux en accélérant à moindre coût. C'est uniquement ça, pour moi, la portée de la Smart City, ni plus ni moins.
Et une aide, effectivement, aux élus qui en ont vraiment bien besoin. Khadija.
Maintenant, la question de l'inclusion, moi, ça me touche ce que vous dites, parce que moi, je suis née, j'ai grandi dans le Val-Fouré, une autre ZUS très sensible.
Non, mais quelque part, entre nous, votre destin et le mien, c'est un miracle français, je vous le dis franchement. Parce que si je n'avais pas rencontré un prof, moi, c'est une prof d'anglais qui m'a sauvé la vie. Une prof d'anglais qui m'a appris à lire Molière. C'est con, hein, voilà, elle m'a appris. J'étais complètement largué. C'était une fabrique à échecs scolaires. Hein. Il y avait 87% d'échecs au bac, hein, dans le lycée où j'étais. 87%. Parce que la moitié des profs étaient dépressifs, ils ne venaient jamais. Enfin, voilà, c'était terrible. Cette prof d'anglais s'appelle Mademoiselle Capella, je me rappelle, elle vivait avec son vieux monsieur. Elle nous a sauvé la vie. Et ensuite, il y a eu un autre parcours, c'est celui du compagnonnage. J'étais compagnon du Tour de France. J'ai commencé par un métier manuel avant de devenir avocat. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces éléments-là, je ne les aurais pas trouvés ailleurs, vous voyez ce que je veux dire. Mais s'extraire de nos quartiers, vous étiez au Val-Fouré, j'étais au Minguette, pour moi, c'est aller en ville, dans la ville de Lyon, qui était à un quart d'heure de bus, pour moi, c'était Mars.
Oui, totalement, parce qu'en fait, on est dans un entre-soi quand on grandit dans un quartier. Et quand on va découvrir Paris, pour ma part, c'était Paris, vous, okay. C'était Lyon.
À qui vous avez dû votre salut, alors, justement?
À ma famille. Des parents en fait qui étaient très opiniâtres, même malgré leur analphabétisme, qui voulaient, je pense, le meilleur pour leurs enfants, en fait, tout simplement. C'est un cadre, franchement, familial très stable.
Exceptionnel.
Et donc, je voulais dire, justement, par rapport à la Smart City, il y a des Smart City, puis il n'y a surtout pas qu'une Smart City de centre-ville. Ça, oui. Moi, je milite beaucoup pour ça.
Et il n'y a pas que les grandes villes qui y ont droit. Hein,
et il y a aussi, tout type de population. Et c'est justement en partant d'une vision, j'allais dire, bottom-up, qu'on réussit à faire des choses extraordinaires.
Je sais que le sujet vous passionne, mais la Smart City, on l'a compris, c'est fait avec des gens smart. On l'a compris. Eh bien, merci. Ça nous donnera l'occasion de faire d'autres émissions, j'espère, d'autres séquences. Merci d'être passé par le plateau de Radio Immo au SMCL. Merci à vous.
Merci.
Merci. Merci.
Le SMCL, le Salon des maires et des collectivités locales, du 16 au 18 novembre 2021 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Action Logement sur Radio Immo et Radio Territoria.